Chapitre 15. 15 novembre 2010. Antoinette se gare un peu à l'écart des grilles du cimetière. Je récupère la cassette et la glisse dans ma poche. C'est fini. Dans une heure, Colette aura retrouvé mes parents et la vie reprendra son cours. Il ne me reste plus que cette urne et bientôt plus que des souvenirs et sa voix. Elle sera morte pour toujours. C'est la première personne que je vois en levant les yeux. Je le reconnais de dos, de loin. Je l'ai tellement filmé, observé, dévoré, aimé. Pourquoi est-il arrivé avant moi? Il s'est isolé pour parler au téléphone. À quelques mètres, Cornelia et Anna se tiennent par la main devant le bistrot Les Passantes. J'ai envie de me précipiter vers ma fille pour la serrer dans mes bras, mais avant, je dépose un baiser sur la joue d'Antoine. Je n'oublierai jamais ce que vous venez de faire pour moi, ni votre Renault 5 Alpine. Il a parfumé son col. Et vous, me répond-il, laconique, n'oubliez pas que vos affaires sont dans mon coffre. Mon sac de vêtements et la valise aux cassettes que je veux rapporter à Paris. Mes mains tremblent tellement que je n'arrive pas à détacher la ceinture de sécurité autour de l'urne. Antoine s'en aperçoit et m'écarte pour le faire à ma place en me soufflant à l'oreille. « Ça va aller, vous êtes une reine. Ça non plus, ne l'oubliez pas. » On ne m'a pas murmuré des mots aussi réconfortants depuis la nuit des temps. Un homme en costume sombre, affable, se présentant comme l'agent funéraire, vient me retirer l'urne des mains. Il me rappelle que nous avons échangé quelques mots au téléphone. C'est lui, le maître de cérémonie. À partir de là, tous les événements qui se produisent, je les vis comme si j'étais à côté de mon corps. Anna, bronzée, souriante, me serre dans ses bras. Je respire son cou pour me donner des forces. « Maman, c'est qui ce mec ?»« Quel mec ?»« Lui, avec sa voiture bizarre, tu viens d'arriver avec lui. » « Ça se voit que vous vous kiffez ?»« Mais non, c'est une connaissance de guignon. La maison Tombola, je te raconterai. »« Je connais la maison Tombola, maman. C'est celle qui a servi à payer les études de grand-père. Mais c'est quoi le rapport ?» Elle me dévisage étrangement avec un sourire intrigué et malicieux. Cornelia, égale à elle-même, m'embrasse à son tour et surenchérit. « T'as rencontré quelqu'un ?»« Mais puisque je vous dis que c'est juste une connaissance, et... » Pierre s'approche de nous, les mains enfoncées dans les poches d'un manteau marine. Même couleur que celui qu'il portait le jour où il était venu m'attendre devant la maison de la presse, à Lyon. Le jour où il m'avait demandé mon âge. Il est encore plus bronzé que notre fille et dépose un baiser sur mon front. Ce n'est pas Judas qui a embrassé Jésus ainsi pour le désigner aux Romains. Je remarque une ride entre ses sourcils, une marque qui n'existait pas de mon temps. Il a changé de parfum. Avant, il portait l'eau d'Adrien. J'adorais cette fragrance. Je la lui avais offerte. Son regard me transperce. Je l'aime encore. Et le hais de l'avoir dans la peau. De réaliser que là, maintenant, devant ce cimetière, s'il me disait « On part tous les deux », je le suivrais sans réfléchir. Mes amis arrivent et je me sens moins fragilisée. Liès, Adèle, Hervé, Nathalie, le docteur Pierry, Louis et Paul. Paul qui semble sur le qui-vive. Il doit y avoir des vigilants civils un peu partout. Antoine les rejoint. Ma garde rapprochée. Trois minibus débarquant de Guignon se garent, et des supporters en descendent, des joueurs, des membres du club, d'anciens clients. J'en reconnais certains. Plusieurs générations côte à côte. Aimé Chauvel se trouve parmi eux, livide. L'amour caché de ma tante me prend dans ses bras. Elle nous avait habitués à sa mort, mais c'est un triste jour. Est-ce les mêmes qu'en 2007 qui étaient là, quand Colette est partie pour la première fois? En l'espace d'un instant, tout le monde se retrouve au comptoir du bar pour commander des cafés. Les gens s'embrassent, cela plairait à Colette. L'ambiance ressemble à celle d'un avant-match, lorsque les passionnés se retrouvent, évoque les classements, échange sur le bon temps, quand l'équipe était en première division et que la Colette savait prévoir le nombre de buts. Où planquait-elle sa boule de cristal? C'est ainsi que j'apprends qu'elle avait gagné plusieurs fois au loto sportif et qu'elle avait donné de l'argent au refuge de Guenion. Nous sommes une petite centaine à remonter l'allée vers la tombe de mes parents, l'agent funéraire en tête, l'urne entre les mains. Devant la stèle, une sono a été installée ainsi qu'un micro. Le FCG de Guenion a fait faire un ballon en marbre noir et blanc. Louis, une plaque avec l'inscription « À mon ami ». Deux plaques dont je n'identifie pas les commanditaires. Un cœur blanc dont je devine qu'il s'agit de celle d'Aimé. Enfin, la nôtre. À notre tante et grand-tante, à jamais dans nos cœurs. Je serre la main d'Anna un peu plus fort. Le discours que j'ai préparé s'annonce difficile à prononcer. Si Pierre n'était pas là, ce serait différent. Je réalise encore une fois combien il est douloureux d'être seul, de ne plus avoir de nuit sur son épaule, comme le chante Véronique Sanson. Le maître de cérémonie prend la parole. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un dernier adieu à Colette Septembre Bayram. Elle reposera près de son frère, Jean Septembre, et de sa belle-sœur, Anna Ruben. Sa nièce et sa petite-nièce vont lui rendre un dernier hommage. Et, pour accompagner sa sœur Colette en musique, nous écouterons le regretté Jean Septembre interpréter un concerto de Franz Liszt au piano. J'ignorais qu'Anna prendrait la parole. Elle me lâche la main et se dirige vers le micro. Je sens Pierre dans mon dos, Louis à ma droite, et à ses côtés Cornelia qui veille. Ma fille porte un jean, des baskets noires et un manteau blanc cintré. Elle est d'une beauté affolante. Elle ressemble de plus en plus à mon père. Elle a légèrement fardé ses grands yeux verts. Sa voix cristalline fend la foule amassée autour de nous. Ma coco, j'adorais être à côté de toi dans ta cordonnerie. C'était comme dans un livre pour enfants. Toutes ces clés, j'imaginais qu'elles ouvraient des coffres secrets. Et ces chaussures, rangées les unes à côté des autres. Tu me disais, tu imagines le nombre de pas qu'il y a dans mon magasin? Tu me donnais des boîtes de cirage comme s'il s'agissait de peinture. Je m'en badigeonnais les doigts et faisais des dessins comme des arcs-en-ciel dans des grands cahiers. Quelquefois, tu m'as emmené au foot, mais c'est toi que je regardais, pas le match. Les matchs, c'était plus intéressant dans tes yeux que sur la pelouse. Je te trouvais belle et timide. Je t'aimais. C'est grâce à toi que je fais du piano. À cause de tous les disques de mon grand-père qu'on a écoutés ensemble. Je ne t'ai pas beaucoup vu, pas bien connu, mais ce n'est pas la peine de beaucoup voir les gens pour savoir qu'on les aime et qu'ils sont importants. Ce qui compte, c'est leur présence quand ils sont là, pas le nombre de fois où on les voit. Et quand j'arrivais chez toi avec mes parents, tu étais tout de suite là, avec moi. On était ensemble. Merci, ma coco. Anna revient près de moi. Je lui prends la main. Elle tremble. Le maître de cérémonie me fait signe d'approcher. Mes jambes flanchent. Je me ressaisis en m'intimant l'ordre d'assurer. Si ma fille en a été capable, je peux le faire. Ne serait-ce que pour elle, Anna et Colette. Je ne t'ai jamais appelé Tata. Ça ne nous aurait pas traversé l'esprit, ni à toi, ni à moi. Je crois que c'est ainsi que commence le discours que j'ai écrit pour toi. Il est là, dans mon sac. Mais je ne vais pas te le lire maintenant. Je reviendrai plus tard. Le plus important aujourd'hui, c'est le revoir que nous t'adressons tous. C'est la présence de tes amis, ici, maintenant. On a fait la route, ma chère Colette. Et je voudrais te remercier. Grâce à ta seconde mort, tu m'as ramené à la vie. Un jour, je t'expliquerai. Je viendrai te raconter quand nous serons toutes les deux. Colette, à chaque fois que je visionne des images de mon père, je te vois, assise près de lui et de son piano, silhouette frêle dans un manteau trop grand, ton petit sac à main posé sur les genoux, l'écoutant religieusement. L'ombre de mon père, c'est toi, Colette. Mais tu n'as pas été qu'une ombre, tu as été, toi.